propose deux lectures introductives. Toutes les deux se trouvent dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 20 et le verset 19. Jean 20, 19. À partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Et puis au chapitre 14, ça c'est notre texte de base depuis maintenant quatre prédications, chapitre 14 de l'évangile de Jean. On va lire à partir du verset 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. » Ce matin, on va terminer une courte série de messages dont le titre général, vous le savez, est le suivant. Le Seigneur veut soigner nos troubles. Le Seigneur veut, et il le veut vraiment, soigner nos troubles. Je vous disais, il y a donc deux semaines, que dans le chapitre 13, il est question d'un état fortement troublé, perturbé chez les disciples. Ils sont perturbés et je relevais quatre facteurs de trouble, la trahison, la séparation, le questionnement, pourquoi. Et il y a donc un état lourd et inquiétant. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur voit un cœur troublé, il sait que c'est aussi un cœur fragilisé. Quand le Seigneur voit ses enfants perturbés pour X raisons, il va immédiatement s'employer à soigner les troubles. Et ce matin, Dieu veut soigner tes troubles afin qu'ils disparaissent définitivement par l'intervention miraculeuse dont il a le pouvoir et le secret. Gloire à Dieu, hein ? Et donc, tout de suite, dès le premier verset du chapitre 14, il dira « Que votre cœur ne se trouble point. » Et il donne une ordonnance. Avec cinq remèdes, il leur présente l'espérance, il leur présente leur mission, il leur présente les promesses de Dieu. Mardi dernier, il parle de cet autre consolateur, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, en effet, avec moi, en moi et sur moi, est un élément déterminant pour me libérer de mes troubles. Et puis ici, le cinquième remède qui va nous intéresser ce matin, ce merveilleux verset 27, « Je vous laisse la paix ». Ce sera le sujet de ce matin. La paix que Jésus donne. La paix véritable. La paix inconditionnelle qui ne dépend pas des circonstances. Je vous donne ma paix. Ce qui sous-entend qu'il existe d'autres formes de pseudo-paix, mais il y a sa paix à lui, qui est la véritable, dont nous avons, vous et moi, impérieusement besoin. Moi, j'ai besoin de la paix de Jésus dans mon cœur. Du matin au soir, et de lundi à dimanche, et de janvier à décembre, j'ai besoin de la paix de Jésus. Sa paix est irremplaçable. C'est un remède tellement efficace pour nous prémunir, nous équiper, nous immuniser contre tous les facteurs de troubles et de perturbations, et ils sont nombreux. Ce n'est pas parce que j'en ai cité quatre il y a deux semaines, ils sont tellement nombreux. J'aimerais vous parler ce matin de cette paix merveilleuse que Jésus offre, qu'il donne. Mais bien sûr, avant d'en arriver à ce sujet, j'aimerais que nous puissions remonter aux origines de nos troubles. Quand j'étais gosse, j'avais 10 ans, 11 ans, et à ma main droite, à force de tenir le porte-plume, à l'époque, il y avait des porte-plumes avec la plume sergent-major, vous vous rappelez, hein, les encriers en porcelaine, et on écrivait, c'était beau. Maintenant, si vous voyez mon écriture, c'est méconnaissable. Hein. Il faut le don d'interprétation, parce que là... Mais à l'époque, voyez, et à force d'appuyer, je voulais m'appliquer, j'appuyais, et je me suis fait une verrue ici. Une verrue qui me faisait tellement souffrir. Et je me plaignais auprès de maman qui m'a dit, mon fils, tu veux en finir avec la verrue ? Je dis oui, alors viens, je vais m'en occuper. Tu vas à la pharmacie et tu vas acheter du nitrole. Ah, nitrole, ça sonne bien. Je vais, je reviens, et elle me dit, viens. Elle me met une goutte de ce produit. Oh, ça fait une forme, une peau blanchâtre. Bon, ça va, très bien. Le lendemain, elle enlève la peau, elle m'en met une deuxième goutte. Et le troisième jour, et le quatrième jour. Et le quatrième jour, je commence à ressentir un picotement. Mais c'est supportable. Mais elle me dit, viens, viens. Le cinquième, le sixième, et elle continue, à la fin de la semaine, c'était très douloureux, douloureux. J'avais du mal à supporter la douleur. Et puis à un moment donné, ce produit très fort a comme opéré en profondeur, et toute la couronne de la verrue s'est détachée d'elle-même. Alors j'étais content. Et je me sentais libéré, débarrassé de la verrue. Alors maman me dit, viens, montre-moi quand même. Et elle regarde donc tout un cercle rouge hein, de chair vivante. Et elle me dit, tu n'en as pas fini encore. Pourquoi ? Parce que tu vois, il y a deux petits points jaunes, ce sont les racines de la verrue. Tu as un choix. Soit on laisse comme ça et ça va repousser, soit on continue et tu seras vraiment débarrassé. J'ai dit on continue. Mais mes amis, quand il a mis une goutte de ce médicament sur la chair vive, mais j'ai hurlé. Je ne savais pas comment tenir, je m'en rappelle encore. Et puis ça a fait son effet et au bout de quelques jours, il y a une deuxième partie de chair morte qui est tombée. Et à la fin du culte, vous viendrez vérifier, hein, 10 euros la visite. Je n'ai plus de verrues depuis des décennies. Plus jamais, c'est terminé. Mais il a fallu aller jusqu'aux racines. Et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, remonter aux racines de nos troubles. Aux origines de nos troubles. Dans le jardin d'Éden, parce que tout commence là, hein, dans le jardin d'Éden, vous savez, là où le Créateur a placé l'homme, la femme, dans un contexte idyllique parfait, une harmonie parfaite, une communion avec l'Éternel, un épanouissement, un bonheur, une innocence, une pureté parfaite. Et il y a eu ce que vous connaissez et ce que moi j'appellerais le grand problème, le drame majeur de l'humanité entière, il y a eu le péché. Il y a eu le péché. Et en remontant aux origines de tous les troubles, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient au niveau social et sociétal, et même géopolitique, les guerres, les conflits, en partant de l'intérieur de l'âme jusqu'à l'échelle mondiale, l'humanité vit des troubles violents parce qu'elles sont les conséquences du drame originel du péché dans le jardin d'Éden. En effet, c'est à la seconde précise où Ève et Adam ont transgressé la seule recommandation que l'Éternel leur avait laissée lorsqu'ils vont, eh bien, finalement consommer ce fruit de cet arbre, eh bien, immédiatement, leur être intérieur est complètement désorganisé, déstructuré. Ils commencent à éprouver des sentiments qu'ils n'avaient jamais connus. Ils connaissent le trouble. Par exemple, la honte. Ils ne connaissaient pas la honte. Et ils ont honte de leur état. Ils connaissent la peur. En entendant la voix du Dieu bienveillant, ils ont peur. Ils fuient. Ils se cachent. La dissimulation. Il y a tout un ensemble de comportements qui expriment le désordre que le péché a engendré à l'intérieur du cœur de l'être humain. Et depuis ce drame, la Bible nous dit que le péché s'est répandu à tous les hommes. Un jour, un prédicateur a osé, quelle audace, dire en évangélisation, y a-t-il quelqu'un qui soit sans péché parmi nous? Et il y avait un incrédule qui aimait bien lancer des défis, il a levé la main, sans péché. Mais il a entendu trois rangs derrière la voix de sa femme lui dire, Jules, je suis là. Alors il a vite baissé sa main, il a vite baissé sa main. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul qui soit sans péché, pas un seul juste, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, mes bien-aimés, mes chers amis, tous les troubles proviennent du drame unique, majeur, du péché. Et à cause du péché, alors la Bible nous dit, en parlant des hommes, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À cause du péché. Ils y aspirent. Ils aimeraient. Tellement de personnes aspirent à avoir la paix dans leur couple. La paix sous leur toit. La paix dans leur milieu professionnel où il n'y a que trahison, manigance, mensonge, hypocrisie. Tant de personnes aimeraient avoir la paix dans les quartiers, dans les villes. Tant de personnes aimeraient entendre aux journaux télévisés de 20 heures que des bonnes nouvelles. Tant de personnes aspirent. Le monde aspire. Les politiques essayent des rencontres au sommet, de s'entendre sur tel ou tel protocole, de signer tel ou tel traité de paix. Mais finalement, le résultat, c'est l'échec, la désillusion, la désolation. Pourquoi ? Parce que l'homme, avec ses propres ressources, ne connaît pas le chemin de la paix. Quelqu'un disait un jour, avec beaucoup d'argent, on peut acheter beaucoup de tranquillisants sans connaître la paix. La Bible donne ce diagnostic ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est le prophète Isaïe, mais l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, reprend ce verset. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et c'est là que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu fait entendre à l'être humain. Si vous ne connaissez pas le chemin de la paix, le secret, la recette, la manière d'y accéder, je vous annonce la bonne nouvelle. Il existe un chemin qui assurément vous conduira à la paix. C'est le message de l'évangile. Alors que Jésus naît, les anges et les chorales célestes annoncent ce message. Paix sur la terre. Alléluia. C'est l'évangile qui nous révèle le seul et unique chemin pour connaître et posséder la paix véritable. Mes amis, lorsque l'on parle du péché, il y a deux positions possibles. Soit le déni, soit la reconnaissance. Tant que on s'enferme dans la bulle du déni du péché, en disant « tout le monde est pécheur, oh oui, mais c'est... » Il faut quand même admettre que la psychologie moderne, dans sa globalité, il y a toujours des exceptions. Il ne faut pas être comme cela général, mais la pensée directrice de la psychologie moderne, c'est le déni du péché. On catalogue même les personnes qui parlent de cette notion du péché comme étant des sources de culpabilité. Vous culpabilisez les gens en parlant du péché, mais pas du tout, parce que quand Dieu m'a parlé de mon péché aux premières réunions auxquelles j'ai assisté, ça ne m'a pas culpabilisé, ça m'a conduit à la repentance et à la délivrance du péché. Amen. Dieu ne nous dit pas « vous êtes pécheurs » dans le but de nous enfoncer dans la culpabilité, il nous dit « vous êtes pécheurs, mais je vous aime quand même et je vous offre le remède, le moyen unique de connaître la libération du péché et d'accéder à la paix véritable. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que la solution que Dieu a trouvée pour régler le problème du péché, c'est la grâce. La grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Peut-être y a-t-il parmi nous quelqu'un qui est conscient que sa vie est une vie de misère. Tu es conscient de ton péché, mais jusqu'ici, tu t'interdis le moindre espoir. Tu penses que tu es tellement enfoncé dans tes péchés qu'il n'y a pour toi aucune solution. Je suis heureux de te dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et dans ta vie où abonde le péché, peut surabonder la grâce du Seigneur. Dieu veut te faire grâce. Il veut déployer sa grâce en ta faveur. Le mot grâce, on n'a pas le temps forcément ce matin pour aller plus loin, mais le mot grâce et le mot gratuit ont la même racine. La grâce, c'est un don gratuit. C'est gratuit. Je n'ai pas besoin de présenter à Dieu, en contrepartie de sa grâce, quelques mérites personnels, parce que les meilleurs mérites ne seraient que dérision à ses yeux. Alors c'est gratuit, la grâce c'est gratuit. Ce matin, gratuitement, tu peux recevoir la grâce. Et elle te guérira de tes troubles. La grâce c'est gratuit pour nous. mais elle n'est pas gratuite pour Dieu. Pour que nous soyons gratuitement sauvés, pardonnés, guéris, libérés, il a fallu quand même un prix. On a chanté un cantique qui a parlé du prix. Hein. Tu as payé le prix. Un prix a été payé. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous parler ce matin de celui qui est venu nous révéler la grâce et la vérité, Jésus-Christ, appelé aussi le prince de la paix, et du prix qu'il a payé une fois pour toutes pour que nous jouissions de la grâce libératrice et que nous puissions être guéris de tous nos troubles, que Dieu soit béni. Oui, Jésus, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera aussi prince de la paix. Gloire à Dieu. Ah oui, lui, il peut nous proposer sa paix parce qu'il en est le prince. Il est le prince de la paix. Le prince de la paix dort paisiblement en pleine tempête. Tous les autres s'épuisent vainement, s'agitent stérilement, mais il y a le prince de la paix et lui, il dort dans la tempête. C'est une image frappante. Qu'auriez-vous pensé d'un prince de la paix qui aurait été agité de crainte et d'inquiétude en pleine... Non, non. Et quand on le réveille, tout aussi paisiblement, il se lève. Tout aussi paisiblement, il s'avance. Et à la proue du bateau, il invective la nature et dit au vent, « Tais-toi !» Et à la mer, silence! Et les éléments naturels lui obéissent, au point que les disciples disent, mais qui est celui-ci? À qui obéissent même le vent et la mer? Mais celui-ci, c'est le prince de la paix qui t'adresse cette promesse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, alors que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point, que Dieu soit béni. Une foule de forcenés le presse et l'amène au sommet d'un précipice, là. Mais il est le prince de la paix. Il se retourne et regarde les gens. Ça va, toi, t'as mauvaise mine ce matin. Il fait un pas, les gens reculent, un deuxième. La foule recule. Tout à l'heure, elle était exacerbée, animée d'intentions criminelles. Mais là, c'est le prince de la paix. Hein. Devant les vociférations des gens agités, lui, il reste paisible parce qu'il est toujours au contrôle. Il avance et il passe. Et personne ne sourcille. C'est le prince de la paix. On vient d'une manière... inquiète, dire « Seigneur, à l'entrée de la ville, on nous demande de payer le péage et on n'a pas de quoi. » C'est le prince de la paix. Il dit ben, « Allez à côté là, jetez la ligne, vous allez attraper un poisson et j'ai ordonné que dans la bouche du poisson, il y ait le paiement du droit de passage. » Vous vous rendez compte? On a un Dieu merveilleux, hein. Et ils y vont, et c'est une chose de le dire, mais c'est une chose de l'expérimenter. Ils y vont, ils jettent la ligne, ils attrapent le poisson. Il y avait un poisson qui attendait, là. Ils arrivent ou pas? J'ai une livraison, hein. Ils attrapent le poisson, ils trouvent le paiement du droit de passage, sans télépéage, sans rien. Ils ont payé, ils ont passé. C'est le prince de la paix. Est-ce que quelqu'un est inquiet matériellement? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que des soucis d'ordre matériel t'angoissent, te privent de sommeil, te troublent? Mais non. Il est le prince de la paix. Pourrait-il être possible qu'il ait une défaillance dans sa fidélité, dans sa promesse de pourvoir à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Que quelqu'un me dise en gros amen là. Oui ou non, plus gros là, hein, à la Aubagnaise là. Hein. Tu ne manqueras de rien. Il est le prince de la paix. Et les besoins matériels qui fréquemment assiégeront ton âme et susciteront en toi de l'inquiétude, eh bien, il a le pouvoir de s'en charger. Gloire à Dieu. Il est le prince de la paix. Lorsque, en présence de Ponce Pilate, des menteurs infectent, l'accusent, ils l'outragent. La Bible nous dit, il ne leur répondit pas un mot. La paix de Jésus face à la folie, à l'orgueil de l'être humain. On pourrait continuer la liste des circonstances où le Seigneur Jésus a démontré qu'il est le prince de la paix. Et la circonstance qui va m'intéresser maintenant, on l'a lu ensemble dans Jean au chapitre 20. Vous savez, au lendemain de sa résurrection, les disciples étaient vraiment très troublés. Puisqu'ils s'étaient enfermés avec dans leur cœur la crainte des Juifs. Ils avaient verrouillé, barricadé, mis des barres aux fenêtres. Et la Bible nous dit, eh ben, on l'a lu ensemble, hein. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est la première chose qu'il souhaite. Ça commence par là. Tant que ton âme n'est pas dans cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tu ne peux pas aller plus loin. En tout cas, une âme qui n'est pas apaisée par le Seigneur fera souvent des erreurs, prendra des décisions mauvaises. Ne prends pas de décision engageante si d'abord tu n'as pas la paix de Dieu dans ton cœur. Que la paix soit avec vous. N'ouvre pas la bouche et ne parle pas, ne prononce même pas le commencement d'un mot si ton âme n'est pas envahie, habitée de la paix de Jésus. C'est la première chose, la paix soit avec vous. Et c'est vraiment remarquable, immédiatement, il joint à cette salutation un geste, il leur montre ses mains percées et son côté percé. Il fait un lien direct, mes amis, entre la paix divine qui nous est proposée et le prix qui a été payé pour que la paix de Dieu devienne notre partage. Un des plus célèbres versets du chapitre 53 du livre d'Ésaïe dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu payer le prix fort pour que la paix de Dieu nous soit accessible. Mais gloire à Dieu, ce prix a été payé. Il l'a payé une fois pour toutes lorsqu'il va s'exclamer tout est accompli, on peut dire, en paraphrasant quelque peu, tout est payé. Tout est payé. D'ailleurs, ce mot grec, tout est accompli, se prononçait dans plusieurs circonstances de la vie courante. Par exemple, un sculpteur qui vient de terminer sa sculpture, là, il fignole, il prend un peu de recul, il regarde et il regarde s'il ne faudrait pas un dernier coup et il dit, ah non, tout est accompli. Mon œuvre, elle est aboutie, il n'y a pas de retouche à faire. Ça se prononçait aussi lorsque on venait vers le commerçant pour régler une facture et le commerçant répond, non, non, tout est payé. Facture acquittée, quelqu'un a payé à ta place. C'est exactement le message que Jésus proclame sur le Golgotha lorsqu'il donne sa vie. Tout est accompli, le prix a été payé. Gloire à Dieu, un prix fort a été payé pour que la paix du Seigneur devienne ton partage, que le Seigneur soit béni. J'ai tellement aimé tout à l'heure ces cantiques, et notamment celui-ci qui dit « Qui ramène la paix ?» dans la confusion. Ben, c'est le roi de gloire. C'est le roi des rois. C'est Jésus. Et ce dimanche, là, ce matin, qui va pouvoir ramener la paix dans ton cœur? C'est le roi de gloire. C'est Jésus. Alléluia. Reçois la paix. Et vous savez, quand le Seigneur se répète, ce n'est pas par manque d'inspiration, sa répétition, c'est intentionnel. Parce que une deuxième fois, il dit que la paix soit avec vous. Ce qui nous montre que c'est pas toujours une chose facile et immédiate. Je prie pour que ce matin, au cours de ce message, le Seigneur évacue de ton cœur et de ta mémoire tout ce qui te trouble et que la paix de Jésus inonde ton être tout entier, que le Seigneur soit béni. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon, vous savez, lorsque Dieu a visité Gédéon et que Gédéon comprend, oh, que c'est l'ange de l'Éternel qui le visite, spontanément, il a à cœur d'offrir un sacrifice. Hein. Alors, il offre son sacrifice, le Seigneur l'agrée et il nomme cet autel Yahvé Shalom. L'éternelle paix, la paix de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 et 2, nous pouvons lire ce merveilleux texte. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu » par notre Seigneur Jésus-Christ. La priorité des priorités dans ce processus de paix, c'est de faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Il est fréquemment utilisé le mot réconcilié. Paul disait, je vous en supplie, nous vous en supplions, soyez réconciliés, réconciliés avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, mais comment? Par la foi, par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés, autrement dit, rendus justes, nous pécheurs, coupables, accusables, par la foi, dans son sacrifice, il se produit un phénomène sublime, c'est que nous sommes justifiés. Tous les chefs d'accusation ont disparu. Oui, parce qu'il y en a un qui aimerait troubler notre âme. C'est l'accusateur. Satan est nommé l'accusateur des frères. Et reconnaissons que les accusations qui pourraient nous être adressées par notre conscience, par exemple, ou par l'accusateur directement par des pensées, généreront forcément du trouble. Du trouble. Est-ce que cela vous est arrivé, moi, bien des fois, de penser, dans l'état où tu es, tu vas aller au culte? Mais pourquoi faire? Examine-toi, regarde dans quel état tu es. Et tu vas te présenter comme cela, devant le Dieu saint. Eh bien, moi, je prends Romains, chapitre 5, et je relis le verset 1 qui m'affirme, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Là où l'accusateur va essayer de cibler tes manquements, tes faillites, tes chutes pour t'accabler de culpabilité, Dieu se lève, amen, comme il s'est levé le jour où Josué, fils de Tsadok, souverain sacrificateur, a été criblé d'accusations. Le diable disait à l'Éternel, regarde, ses vêtements sont sales, ils sont souillés, ils sont tachés, il l'accuse. Et j'imagine que là, Josué a été fortement troublé, mais Dieu s'est levé. Et Dieu a ordonné, enlevez-lui ses vêtements sales, revêtez-le de vêtements propres et mettez sur sa tête un turban pur avec un diadème. Et l'accusateur a été frappé de mutisme. Il n'a plus eu de chef d'accusation parce qu'il y a eu justification. Étant donc justifié, autrement dit déclaré juste par Dieu lui-même, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te persuade ce matin que le prix payé à Golgotha il y a 2000 ans a comme conséquence ta justification. Amen. La dette n'est plus. Il l'a payée à ta place. Satan ne trouvera plus aucun argument contre le croyant qui se trouve au bénéfice de la rançon qui a été payée une fois pour toutes, justifiée. Oh, c'est bon, hein, de se sentir justifié. Alléluia, on peut regarder dans les yeux toute personne. Alléluia. On peut se regarder aussi dans le miroir parce que certains n'osent pas. Tellement, c'est pas une question de ride, mais... parce qu'ils sont confrontés avec ce qu'ils sont. Mais quand on est justifié, mes amis, eh bien, on a la paix. Nous avons la paix, et surtout, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Nous savons que ses intentions pour nous sont bienveillantes. Sa volonté, c'est le succès et la bénédiction. Alléluia. Nous savons qu'il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Même pas Satan, alléluia! Nous savons que son sourire nous éclaire, que sa main protectrice et paternelle nous garantit de tous les pièges. Nous savons qu'il prend en charge nos pas et qu'il nous garantit un très heureux aboutissement. Que Dieu soit béni. La paix avec Dieu, immédiatement, mes bien-aimés, dès l'instant où je suis en paix avec Dieu, je suis aussi en paix avec moi-même. C'est important, hein, d'être en paix avec soi-même. Je suis en paix avec moi-même, avec ma vie. Je suis en paix avec mon passé. Trop de nos contemporains sont rongés par leur passé, avec tout un cortège de remords qui les ronge de l'intérieur. Mais étant justifié par la foi, je suis en paix avec mon passé. Quelqu'un a dit fort justement, avec Jésus, ton passé n'a pas d'avenir. Amen. Parce que la Bible dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma sœur, ne permets pas à ton passé de te rattraper et donc de te troubler. Tu es justifié, tu es en paix avec Dieu. Eh bien, cela te donne d'être en paix avec ton passé. Le passé, le pire et le plus horrible qui soit, n'est plus, parce qu'il a été englouti dans le pardon de Dieu. Être en paix avec son passé, oui. Être en paix dans son présent. Dans son présent. Je ne sais pas quel présent tu es en train de vivre là, en ce moment. Hein. Quelqu'un me dira, c'est plutôt une galère. Bon, la paix de Jésus dans ton présent. Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement perturbés présentement qu'ils veulent fuir soit dans leur passé, dans la nostalgie, c'est l'évasion, tout ça c'est artificiel, hein, ça ne règle pas le problème. Soit ils se projettent dans des rêveries, n'est-ce pas ? Je fais un rêve, j'ai un rêve, on entend souvent, j'ai un rêve, mais arrête de rêver et par la foi, comprends que Dieu te propose sa paix pour vivre triomphalement ton présent. La paix avec mon avenir aussi. Gloire à Dieu. Personne ici ne peut prétendre connaître son avenir. Le lendemain ne nous appartient pas, dit la Bible. Cependant, je suis en paix. Amen. Je suis en paix avec mon avenir parce que c'est mon Dieu qui le garantit, que le Seigneur soit béni. Je terminerai avec deux textes bibliques, parce qu'une fois que on jouit de la paix de Dieu, de cette manière, avec Dieu, avec moi-même, avec ma vie, dans ces trois dimensions, passé, présent, futur, alors, il y a ce texte de Matthieu, au chapitre 5, qui prend une importance si belle, ce sont les paroles de Jésus, Matthieu, chapitre 5 et le verset 19. Cela fait partie des fameuses béatitudes où Jésus dit, Matthieu 5, 19, on va le lire. Il n'y est pas sur la liste là ? Matthieu 5, 19, alors je vous le lis comme cela. Alors, voilà, en fait c'est Matthieu 5, 9. J'ai été troublé un instant, mais ça va mieux. La paix est revenue. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Oui, parce que cette paix de Dieu qui envahit mon cœur maintenant me rend capable d'exercer une influence bénissante autour de moi. Il y a les semeurs de zizanie et il y a les procurateurs de paix. Alors, on veut être qui ? On veut procurer la paix ou... Un jour, j'ai dû parler avec une sœur, il y a bien longtemps, hein, en présence de son mari, parce que j'ai voulu qu'il contrôle vraiment mes paroles. Et j'ai dit, ma chère sœur, c'est bizarre, moi j'observe une chose. Partout où vous passez, vous mettez la zizanie. Oh, il s'est mis à pleurer, mais c'était le constat. Partout, chez les musiciens, à l'école du dimanche, dans quelques services où elle arrivait, c'était la zizanie. Eh bien, Dieu nous appelle à l'inverse, à avoir cet art, parce que c'est un art, de procurer la paix. Et alors, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et si quelqu'un ne l'est pas encore, tu peux te convertir et donner ton cœur à Jésus. Alors, tu vas devenir enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas appelés à rester enfants, mais à devenir fils et filles. Ce qui nous parle d'une maturité, d'une stature d'adulte. C'est les enfants qui se chamaillent, oui ou non ? Moi, j'ai trois petits-enfants. C'est donc des garçons et une petite fille. Alors là, c'est la chouchoutée de la famille. Dès qu'elle vous voit, elle vous fait des sourires incroyables. Mais les deux grands parmi les trois, parce que le troisième, il arrive, il est encore jeune, mais les deux grands, ils vous mettent une ambiance, mais de quelquefois de terreur, quoi. Ils se chamaillent pour rien. Ils ont chacun deux coffres avec des dizaines de voitures, mais ils veulent en même temps, les deux, la même voiture. Et ils se chamaillent pour eux. C'est incroyable. Ben ça, c'est propre à l'enfance. La chamaillerie, c'est de l'enfance. C'est de l'enfantillage. Ça fatigue. Ça rend inconfortable l'existence, quoi, la chamaillerie. Puis, l'enfant, il devient fils. Si mes petits-fils, quand ils auront 20 ans, continuent à se chamailler pour une petite voiture, alors là, je vais me faire beaucoup de soucis. Il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes. Les chamailleries disparaissent au fil de ta croissance en maturité. Deviens mature et deviens capable de procurer la paix. Une parole inspirée, une parole de Dieu, une parole qui calme, qui résonne, qui rééquilibre, qui édifie. Alléluia ! La sagesse d'en haut, elle est pacifique, nous dit la Bible. Elle est conciliante, elle est exempte de duplicité. Il nous faut la sagesse d'en haut qui nous rend capable de procurer la paix. Et je termine ce message, frères et sœurs, avec un dernier texte, Actes 9, 31. Actes des apôtres, chapitre 9 et le verset 31. Il nous est dit, cela concerne l'église primitive, hein, il nous est dit, l'église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. La volonté de Dieu, c'est que l'Église que nous composons puisse vivre ce programme-là. Qui commence, là encore, ça commence par ce beau témoignage. L'Église était, comment ? En paix. Gloire à Dieu. L'Église était en paix. Parce que finalement, quand chaque membre de l'Église est habité de paix divine, ben, la résultante, c'est que l'Église, elle est en paix. Quand l'Église est constituée de procurateurs de paix, ben, l'Église, elle est en paix. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et la suite de ce programme n'aurait pas eu lieu si au départ, l'Église n'était pas en paix. Entre ceux de la Judée et de la Galilée, il n'y avait pas beaucoup d'atomes crochus, vous savez. Mais tous les atomes crochus ont disparu là, et ils étaient en paix. Entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas beaucoup d'affinité. Hein. L'histoire, la culture, les croyances, les habitudes, les coutumes ancestrales, tout était là pour les différencier les uns des autres. Mais tout ça, ça a disparu. Hein. Ça a disparu pour faire une église qui est en paix. Gloire à Dieu. Amen. On a tous une historique différente, là, ce matin. Ton histoire a ses particularismes, la mienne également. Il y a tellement d'éléments qui pourraient nous séparer, nous différencier, jusqu'à même générer des confrontations, des dysfonctionnements. Mais Dieu est plus grand. Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, transcende tous les facteurs de clivage et de séparation. Est-ce que j'oserais dire d'inimitié ? Tout ça, ça disparaît. Et je prie pour que de son trône, Dieu, portant les regards sur nous, dise « Oh, l'Église est en paix. » Alléluia. l'Église est en paix, et alors il y a la suite. Elle s'édifie, elle se construit, elle marche dans la crainte respectueuse du Seigneur, et elle s'accroît, elle se multiplie. Le développement numérique, gloire à Dieu. Et ça finit par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, si nous voulions lire ce verset d'une manière plus juste, bien sûr, ça alourdirait au niveau de la syntaxe, ça alourdirait les choses, mais écoutez bien, je vais vous relire ce verset un peu différemment. L'Église était en paix par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'édifiait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle marchait dans la crainte du Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ce beau programme est inaccessible. Notre seule bonne volonté ne suffira jamais. Mais merci Seigneur, on l'a vu mardi soir. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Certains ont traduit un autre moi-même. Le Saint-Esprit a comme ministère la prise en charge de l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui travaille à sa paix, c'est lui qui l'équipe de dons spirituels, c'est lui qui donne toutes les ressources célestes afin que l'Église puisse avoir une marche triomphante, que Dieu soit béni. L'ennemi déchaînera sa fureur, ses ruses, pour essayer de perturber, de troubler, mais il est vaincu. Jésus est vainqueur. Et par la croix et par le prix payé, nous sommes appelés maintenant à connaître la paix de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et bien qu'il en soit ainsi ce matin. Chacun peut silencieusement regarder, introspecter, analyser son cœur, ses pensées, son vécu, dire Seigneur, ouais, j'ai laissé des germes de troubles s'infiltrer en moi, viens me désinfecter, viens me guérir, viens me libérer, afin que plus aucun trouble ne vienne agiter mon âme et affaiblir ma piété. Et notamment, Seigneur, cette paix merveilleuse dont il a été question, je la désire. Qui veut la paix dans son cœur? Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voulez-vous que nous prions le Seigneur quelques instants? Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Seigneur, lorsque tu nous enseignes par ta parole, c'est parce que tu veux que l'enseignement entendu, nous puissions le vivre. Tu nous as enseigné la paix de Dieu ce matin et tu veux que nous puissions vraiment l'expérimenter. Je te prie ce matin, Seigneur, de me visiter, de visiter chaque frère, chaque sœur, chaque ami ici présent, jeune, moins jeune, tu connais nos cœurs. Rien ne t'est caché. Et dans ton immense amour, tu veux t'approcher de chacun avec ce remède divin, ta paix, Seigneur. Que ta paix coule dans les cœurs, que ta paix rassure ceux qui s'inquiètent, que ta paix fasse du bien à l'âme en souffrance. Que ta paix chasse au loin l'anxiété, la crispation, l'angoisse. Que la paix de Dieu nous inonde ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, et dans les jours à venir, jusqu'à ce que tu reviennes, que ta paix demeure notre partage, qu'elle soit en nous, qu'elle soit parmi nous, que nous puissions la véhiculer dans nos maisons, que nous puissions la dispenser autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.